BPM Vernon 99.3.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est enfin l'heure de votre émission BPM Magazine. Nous sommes ravis de vous proposer cette émission où cette semaine nous avons l'honneur de recevoir Alcool Assistance présenté par Bernard Duez. Alors tout d'abord, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, oui ça va très bien.
Avant de parler d'Alcool Assistance, du coup, on va parler un petit peu de vous. Qui êtes-vous pour nos auditeurs ? Présentez-vous, voilà, faites-nous un point sur votre parcours.
Ben, comme vous le dites, je suis Bernard Duez, donc un ancien malade alcoolique aujourd'hui stabilisé. Donc j'ai 34 ans d'abstinence, j'ai 71 ans. Et bon, j'ai arrêté donc l'alcool suite à un accident de voiture. J'ai failli me tuer en voiture. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et le lendemain, ma femme m'avait apporté ma valise, c'est-à-dire qu'elle me mettait dehors, tout simplement. Et donc là, j'ai pris conscience. J'ai pas arrêté pour reconquérir ma femme, pour de nouveau être à ma femme, d'être avec ma femme. J'ai tout simplement arrêté pour moi, pour que j'aille mieux. Et puis derrière, tout simplement, j'ai été patient. Derrière cet arrêt, je me suis retrouvé donc à l'hôpital. Hein. Et après, comme ma femme m'avait mis dehors, comme je vous le dis, je me suis retrouvé à l'armée du salut au Havre parce que je ne travaillais plus. J'avais plus rien. J'avais tout perdu, sauf la vie. Et avec la vie, on peut de nouveau construire et reconstruire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été patient, j'ai laissé le temps au temps. Et je me suis retrouvé donc à l'armée du salut au Havre. Et pendant 9 mois, contre vents et marées, je n'ai pas retouché une goutte d'alcool. J'ai eu la chance d'avoir là-bas, d'avoir été écouté. Dès que j'avais un petit moment de cafard, j'allais voir les éducateurs dans cette structure. Et puis ils ont su être là, m'écouter, m'encourager, me valoriser. Tout s'ensuit. Et au bout de 1 an à peu près d'armée du salut, je suis revenu sur ma région d'origine, donc qui était Bernay, et j'ai fait des démarches spontanées au sein des entreprises de Bernay pour me vendre, entre guillemets, pour retrouver une stabilité professionnelle. Donc ça, c'était encore une pièce du puzzle, ce que j'aurais mis en place. Et puis suite à ça, j'ai renoué aussi des liens avec ma femme qui m'avait mis dehors. Tout simplement, on en a reparlé après pour que je réagisse. Et on s'est remis ensemble parce que j'ai retrouvé un travail. Après, je me suis réinséré. J'étais réinséré socialement. Et puis derrière tout ça, dans la continuité, je me suis investi aussi au sein d'une association qui s'appelait à l'époque la Croix d'Or et qui est devenue Alcool Assistance. Parce que aider les autres, ça m'a aussi aidé et je me suis investi énormément. Je continue à m'investir parce que je crois qu'il n'y a pas de cas irrémédiable et on est là justement pour essayer de donner aux gens, que leur proposer des clés pour qu'ils trouvent leur solution, bien sûr. Et on le dit assez souvent, et je le dis assez souvent et même toujours, c'est pas nous, anciens malades, qui allons trouver la solution de la personne qui a un problème d'addiction, mais on peut l'aider à cheminer et à trouver sa solution. C'est en expérimentant que l'on trouve la solution, tout simplement. Moi ça fait 34 ans, et 34 ans, de liberté, tout simplement. Et je peux dire une chose aussi, et c'est important, depuis 34 ans que je suis abstinent, de l'alcool et depuis 24 ans du tabac, parce que j'ai aussi fumé énormément du tabac, il n'y a pas une journée, je n'ai jamais regretté mon choix de vie, parce que c'était un choix de vie pour vivre. Parce que quand on est dépendant d'un produit, que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac, que ce soit le cannabis ou toutes les deux autres drogues illicites, c'est plus nous qui gérons notre vie, c'est le produit qui nous mène par le bout du nez. Alors, la liberté, on y tient. Je crois que dans la devise française, en plus, on dit liberté, égalité, fraternité. Liberté, on le met en premier, alors que par ordre alphabétique, ça devrait être le troisième. Donc, on y tient. Il faut pas que ce mot soit galvaudé. Moi, j'en connais toute la teneur de ce mot-là pour l'avoir vraiment perdu. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ma liberté. Donc, je n'ai jamais regretté mon choix. Et derrière le choix de l'arrêt de ces deux produits-là, J'ai eu que des bienfaits et des bénéfices. Et je dis aux gens, quand ils prennent la décision d'arrêter, je dis c'est un choix que vous ne regretterez jamais, jamais. Vous avez que des bénéfices. Bien sûr, matériel si on veut, mais ça c'est secondaire. Mais surtout et avant tout, des répercussions sur la santé. La santé. Et la santé, ça n'a pas de prix. Comme on... Voilà.
C'est un discours très intéressant que vous tenez, très important même, puisque beaucoup de, je pense notamment à des jeunes qui vont voir le côté boire de l'alcool d'un côté plus récréatif, alors qu'au final c'est un véritable fléau une fois que l'addiction est vraiment installée.
Ah oui, 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 ben justement aujourd'hui on voit, moi depuis 34 ans que, bon, que je suis abstinent et que je côtoie bon, toutes les tranches d'âge, j'ai intervenu pendant des années dans les collèges et lycées, pour faire la prévention dans le cadre des comités d'éducation, santé, citoyenneté qui existent dans les collèges et les lycées, eh bien, j'ai vu une évolution, hein, il y a 34 ans en arrière, bon, généralement, les jeunes n'avaient pas trop de problèmes, mais aujourd'hui, les drogues, on prend le cannabis, par exemple, ça s'est tellement banalisé, et que l'on pense que c'est licite, parce que quand on dit, vous n'avez pas le droit d'en détenir, pas le droit d'en consommer, pas le droit d'en vendre, mais vous rigolonnez d'un air de dire que c'est banal, alors que c'est quand même illicite. Après, moi je dis, et à juste titre, je pense, hein, que l'interdit n'a jamais réglé un problème de santé publique majeur. Et aujourd'hui, moi ce que j'essaye de faire passer comme message auprès des jeunes, essayer de les responsabiliser, pas les infantiliser, les responsabiliser, et leur dire tout simplement bon, que ce n'est pas en stigmatisant, en banalisant, ou en interdisant, ou en faisant la morale, qu'on fait passer des messages, tout simplement. C'est en parlant vrai. Moi, quand je parle de mon parcours, parce que je m'appuie dessus, c'est une force, eh bien, le message passe à chaque fois auprès des jeunes. Mais ici, ils se disent, bah, mon Dieu, ce monsieur-là, il sait de quoi il parle, parce qu'il l'a vécu. Et ça, c'est très porteur. Et puis quand je dis aussi, bon, et à juste titre, il faut le dire aussi, hein, que les effets néfastes que ça peut entraîner derrière, hein, bon, quelque part, notamment pour les jeunes bah, qui vont consommer du cannabis, une perte de concentration, la perte de la mémorisation à court terme, perte d'attention, toutes ces choses-là. Et bien après, voilà, quand on a posé ces choses-là, au moins, on l'a dit, tout simplement, parce que moi, j'ai pas vécu le cannabis dans ma chair. Mais par contre, je l'ai vécu en tant qu'entourage, parce que j'ai un fils qui est tombé là-dedans, enfin tombé, qui est insidieusement, qui a commencé à consommer du cannabis, et de plus en plus. Et puis, je connais les effets néfastes que ça a pu entraîner pour lui, et aujourd'hui, les problématiques qu'il a, notamment de schizophrénie, et c'est le terreau qui favorise le développement de ces maladies-là, bien souvent, c'est ces produits psychotropes, hein, ces drogues illicites. Donc, je mets en garde les jeunes et pas croire qu'on est autrement qu'un autre. Quand on commence à prendre un produit, eh bien, faut faire attention. Quand je dis aux gens, bah, si vous augmentez les doses pour les mêmes effets, attention, vous êtes dans une pente ascendante qui peut vous amener à l'excès. Et de l'excès, bah, y a une feuille de cigarette qui vous amène tout simplement à la dépendance. Et quand on est dépendant, on ne peut plus revenir à la modération. Quand on est à l'excès, on peut revenir à la modération. Et quand on est passé dépendant, eh bien, on a perdu sa liberté et on a perdu la maîtrise du produit. Si on arrête, on retrouve sa liberté. Mais la maîtrise du produit, on ne la retrouvera jamais. Et je donne toujours comme exemple concret les gens qui fument. Beaucoup d'entre nous connaissent des gens qui ont fumé énormément, qui ont été dépendants du tabac, qui ont arrêté. Puis un beau jour, ils disent, bon, après tout, une cigarette, c'est pour la cigarette qui va faire du mal, hein, une. Bon. Et ils apprennent cette cigarette-là, c'est sûr qu'elle ne va pas faire de mal. Mais dans un coin de votre mémoire, la mémoire tabac, eh bien, c'est fermé puisqu'on ne consomme plus. Et si on réintroduit, on refume une cigarette, bah, le clapet de la mémoire va s'ouvrir et tôt ou tard, ça va vous aspirer vers cette quantité qui est mémorisée. J'ai jamais vu, jamais, jamais, et je peux le dire à l'infini, ça, j'ai jamais vu quelqu'un avoir perdu la maîtrise d'un produit le retrouver un jour. Donc il faut accepter tout simplement que c'est néfaste pour nous et puis derrière s'épanouir sans ce produit-là. Et on peut très bien vivre sans. Hein. J'ai fait ce choix d'arrêt tout simplement pour vivre libre tout simplement. Quand on est pieds et mains liés, ce n'est pas le but dans la vie, hein, d'être asservi ou d'être esclave de quelque chose. Le but, c'est d'être libre et avoir son libre arbitre, tout simplement. Voilà. Et puis les jeunes, je mets aussi en garde contre les consommations, qu'on en parle assez souvent, hein, les types de consommation, notamment Biture Express ou Binge Drinking, c'est-à-dire des consommations excessives d'alcool fort en très peu de temps. C'est-à-dire celui qui va se mettre la mine, entre guillemets, le plus rapidement possible, sachant que l'alcool est quand même neurotoxique, donc détruit des neurones. Bien sûr, les neurones se régénèrent, mais il ne faut pas oublier que quand on pratique ces types de consommation, eh bien, on a généralement une vingtaine d'années, et le cerveau n'est pas encore adulte, donc on peut entraver la formation définitive du cerveau. Donc c'est toutes des choses qu'il faut mettre en garde. Après, on n'est pas dans l'interdit, je le dis encore, mais mettre en garde, essayer de responsabiliser toute la population, parce qu'elle rend les gens acteurs de leur santé. Hein. Il n'y a personne d'autre que la personne concernée qui peut agir sur sa santé. Hein. Je crois qu'on a un capital santé, on n'en a qu'un, il ne faut pas l'entraver de trop. Parce que moi, personnellement, je l'ai entravé un jour, plusieurs jours dans ma vie quand j'étais dépendant, parce que lorsque j'ai arrêté, j'avais 37 ans, et le médecin, je me souviens toujours, à l'hôpital où je me suis retrouvé, il m'a dit « Monsieur, si vous arrêtez pas, dans 6 mois, vous êtes mort », parce que je commençais à avoir un début de cirrhose, c'est-à-dire que le foie commençait à se gangréner, à ne plus remplir sa fonction essentielle qui est de permettre la dégradation, l'oxydation et donc l'élimination d'alcool. Et quand on sait que le foie, c'est un organe vital, eh bien, quand le foie, entre guillemets, est mort, eh ben, la personne meurt aussi. Hein. Donc, j'ai tout simplement... Tous ces éléments-là m'ont fait prendre conscience. Et aujourd'hui, je le redis encore, c'est un choix que je ne regrette pas et que je regretterai jamais, jamais, jamais. Par contre, je ne dis pas jamais je reconsommerai de l'alcool, parce que on ne sait pas ce que demain réserve. Mais je mets tous les atouts de mon côté et je cultive au quotidien deux choses qui sont essentielles pour pouvoir durer dans le temps. L'humilité et la vigilance. L'humilité, c'est-à-dire tout simplement être humble et dire tout simplement que contre ces produits-là, eh bien, je serai toujours perdant. Et la vigilance, mais il ne faut pas que ça devienne aussi obsessionnel, être vigilant, faire très attention, tout simplement, hein, et pas se dire que, exceptionnellement, après tout, je vais prendre une coupe de champagne, mais ça sera l'exception de trop qui va réenclencher la mécanique, hein, et tout simplement, et puis nous aspirer vers cette quantité qui est mémorisée. Entre guillemets, j'ai jamais vu quelqu'un avoir été dépendant et reconsommer et consommer moins qu'avant. Toujours au minimum autant, si ce n'est plus. Ça prouve tout simplement qu'on a perdu la maîtrise. Et ça, que ça reste mémorisé. Ça nous aspire vers cette quantité qui est mémorisée, tout simplement. Voilà.
Passons maintenant au niveau d'alcool assistance. Comment est-ce que ça se passe? Alors, notamment depuis cette crise sanitaire, j'imagine qu'elle a dû avoir un impact assez négatif sur beaucoup de personnes au niveau de l'alcool. Comment est-ce que vous avez vu cet impact de la crise sanitaire?
L'impact de la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a réagi assez rapidement et on a dégagé de nouvelles stratégies. Parce que on sait très bien que les addictions en général et l'alcool en particulier amènent tout simplement au renfermement sur soi. Je disais tout à l'heure, bien sûr, la perte de liberté et l'isolement. Et le confinement, ça a été la double peine, parce que ça a été la restriction de liberté, l'enfermement, et puis les gens qui sont seuls, la solitude, doublement. Hein. Donc, ces gens-là, pour maintenir un lien social, Et eh bien, je me suis engagé, puis avec d'autres bénévoles de l'association, à appeler nos adhérents, les gens, régulièrement. Moi, j'appelais les gens au minimum une fois la semaine. Et je leur disais, vous pouvez appeler quand vous voulez. Et ça n'a pas empêché que le virtuel ne remplacera jamais le présentiel et le physique, hein, et ni les réunions que l'on peut avoir de partage. Mais ça a eu le mérite d'exister. Et on a aussi, le point positif, entre guillemets, du confinement, c'est que l'on a innové en accord avec des médecins addictologues, notamment, je pense, à un médecin addictologue de la clinique des Essarts, qui est une clinique de centre de cure, hein, tout simplement, sur Petite Couronne, à côté de Rouen. Eh bien, on a fait ce qu'on appelle des téléconsultations, c'est-à-dire les gens qui n'allaient pas bien. Eh bien, je donnais le numéro de téléphone au médecin et il appelait les gens. Et suivant ce qu'il ressentait, il prescrivait une ordonnance médicale, tout simplement des médicaments, et qui faxait l'ordonnance à la pharmacie la plus proche du domicile de la personne. Bon, c'est des choses qui ont été mises en route et que l'on n'avait pas nécessairement pensé avant, et qui vont perdurer dans le temps, parce qu'ils vont dans le bon sens. Aujourd'hui, quand quelqu'un ne va pas bien et qu'il ne peut pas se déplacer, eh bien, ça continue. Là, il y a encore 2 jours, j'ai appelé le docteur Cadet de la clinique des Essarts, et il a appelé la personne. Hein, et c'est vrai que c'est très réactif et ça va dans le bon sens. Après, il y a eu des hauts et des bas dans le confinement, un desserrement, un resserrement. Et j'ai dit, mais non, d'un chien. Et je dis, il va falloir quand même essayer de trouver à faire des groupes de parole. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, justement, à des groupes restreints de 6 personnes, comme c'était autorisé, hein, et puis toutes les semaines. Donc, on s'est adapté aux gens. Les gens, après, les visites à domicile, bien sûr, ont été plus ou moins abandonnées, mais on a quand même maintenu ce lien par la communication, par ces petites réunions, ces petits groupes de parole, et puis le développement de la téléconsultation. Je crois que ça, c'est des atouts indéniables. Et puis, l'autre avantage aussi, entre guillemets, je dis bien parce que si le confinement c'est un avantage, non, mais derrière le confinement, j'ai retrouvé des gens que j'avais au téléphone, avec qui je dialoguais, et qui se sont confiés beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai découvert des gens plus profondément. Donc, une aide et un accompagnement peut-être plus adapté, si on peut dire. Et ça, c'est vrai que ça a pas mal de prix. Et puis en plus, les gens, ils étaient quand même très contents qu'on voit que ça intéresse à eux. Hein, je crois qu'on ne les a pas laissés non plus dans la nature. Et malheureusement, je dis bien, cette période a fragilisé beaucoup de personnes et on a des gens qui ont repris le produit. Hein, je ne dis pas rechuté, repris le produit. Et puis qu'on est de nouveau dans une démarche aujourd'hui d'acceptation, une démarche de nouveau peut-être de soins, parce que nous on propose, on n'impose pas, hein. Et puis par contre, c'est vrai qu'on a une recrudescence d'appels, hein. C'est incroyable le nombre d'appels de SOS de gens qui n'allaient pas bien, et puis aussi parfois aussi, hein, je dis bien, de l'entourage, hein, les compagnes, parce que le confinement, il y a eu aussi la recrudescence des violences familiales, hein, et bien souvent, le vecteur, ce qui entraîne ces violences, bien souvent c'est la prise de ces produits psychotropes, hein, donc on a eu un gros travail aussi de partenariat et de travail en réseau, parce que quand il y a des violences, il faut savoir aussi orienter les gens. Donc c'est ce que l'on a fait vers le centre départemental du droit des femmes et des familles. On oriente vers les structures, donc ça a permis aussi, quelque part, d'activer et de renforcer encore notre réseau, qui va se renforcer encore au fil du temps, parce que là, je crois qu'on est aux prémices, malheureusement, il faut être objectif, hein, et réaliste, on est aux prémices des conséquences que ça va avoir, ce confinement, parce que derrière, il va y avoir malheureusement une crise, faut bien dire, hein, professionnelle, l'emploi, et qui dit manque d'emploi dit précarité, qui dit précarité, bien souvent, un problème d'addiction, on boit pour oublier, mais c'est un pansement sur une jambe de bois, hein. On ne règle rien par un produit, hein. Mais Hein, c'est facile à dire quand on est sorti, mais après, il faut comprendre les gens qui sont malheureux. Ils essayent d'oublier, tout simplement, de s'anesthésier. Et c'est pas la solution, hein, c'est chose qu'on dit à chaque fois. Mais par contre, on a eu aussi, on a eu quelque part aussi de très, très belles réussites. Hein. Moi, je suis fier, notamment... je le dis parce que c'est BPM, d'une dame notamment sur Vernon, hein, que j'ai aidée, et puis aujourd'hui, qui a un an d'abstinence, donc elle a traversé quand même avec des hauts et des bas cette période, et aujourd'hui, bon, elle peut être fière d'elle, hein, moi je suis fier d'elle, et c'est vrai que c'est des formidables encouragements à continuer, à persévérer dans la voie de l'aide et de l'accompagnement, hein. Et pour dire aussi que alcool assistance, il y a le mot alcool, donc on aide et accompagne les gens qui ont des problèmes d'alcool, et aussi l'entourage que l'on prend en considération. Et là, le 3 juillet, on a, au niveau de notre fédération nationale, une assemblée générale extraordinaire qui va entériner le nouveau nom de l'association. On ne va plus s'appeler alcool assistance, on va s'appeler Fédération Entraide Addict. C'est-à-dire entraide sur les addictions, parce que tout simplement aujourd'hui, il faut appréhender la personne dans sa globalité addictive, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'alcool. Bien souvent, il y a alcool, il y a cannabis, il y a tabac. Donc, il faut savoir appréhender la personne et coller au plus près de la réalité sociétale. Aujourd'hui, c'est les polyconsommations, donc les risques de polyaddiction, et être à même de répondre, tout simplement. Et pour ça, les gens, quand ils verront, ils appelleront et diront « Entraide addict, vous traitez toutes les addictions, vous aidez tous les gens ». Je dis « Oui, on aide tous les gens pour les problèmes d'addiction ». Et puis maintenant, quand les gens décident de faire une cure, eh bien les centres de cure, tous les centres de cure ne sont pas exclusifs alcool. Maintenant, tous les centres de cure, c'est les addictions. C'est les addictions. Quand on rentre à la clinique des Essarts, quand on rentre dans n'importe quelle clinique, la clinique des Portes de l'Heure sur Vernon aussi, qui traite aussi de ce problème d'addiction, eh bien, ça n'est pas que l'alcool, c'est toutes les addictions. Donc, voilà. Donc, on évolue aussi pour coller au plus près de la réalité.
On s'approche de la fin de l'émission. En quelques mots, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter si jamais on a un proche, si jamais nous avons besoin de cette aide pour combattre ces addictions?
Tout simplement, vous pouvez appeler mon numéro, hein, il n'y a aucun souci, M. Duez Bernard, au 06 83 04 19 61, ou me contacter par mail, hein, petit c Duez en minuscule, @gmail.com. ou aller sur le site de la Fédération Alcool Assistance, et vous allez avoir toutes les coordonnées, les informations aussi, le site national, hein, qui va vous renvoyer au groupe de parole ou au lieu d'accueil le plus proche de votre domicile, tout simplement, et vous contacter. Et puis, si vous n'avez pas de réponse, ça peut arriver, hein, parfois, vous me contactez. Moi, si je ne peux pas vous répondre dans l'immédiat, j'écoute votre message, hein, si je suis en réunion ou occupé, et dans la journée, au grand maximum, je réponds, tout simplement. Je crois que quelqu'un qui appelle, c'est quelqu'un qui appelle au secours, il a besoin d'être entendu. Et une écoute au téléphone, ça peut créer déjà un premier climat, hein, de confiance, et puis à partir de là, on peut avancer, puisque la base de tout, hein, pour aider les gens qui ont des problèmes d'addiction, c'est de créer un climat de confiance. On construit tout sur la confiance et sur la sincérité. Et je redis on ne peut pas aider les gens contre leur gré. Il faut qu'ils soient dans l'acceptation de l'aide. Et l'aide est incontournable pour se sortir d'une addiction. Parce que si on n'accepte pas que ce soit l'aide médicale, hein, médecin, l'aide psychologique, ou l'aide amicale que nous, on représente par l'identification. Hein, les gens qui viennent à nos réunions, nos groupes de parole ou qui appellent, ils se retrouvent en nous. Moi, je me retrouve en eux. Donc, il y a un peu l'empathie qui peut aller avec, hein, un phénomène d'identification. Et donc, généralement, le courant passe très bien parce que les gens Ben, ils disent, ben moi, ah oui, oui, nous, ils nous racontent pas de bêtises. Ce qu'ils nous disent, ben nous, on le vit aussi. On peut pas l'inventer. Vous voyez, je crois que... Et là-dessus se crée un climat de confiance et on avance. Et je le dis encore, nous, moi, aujourd'hui, depuis plus de 30 ans que je fais du bénévolat, jamais j'ai imposé quoi que ce soit à quelqu'un. Je lui propose, je l'encourage, je le motive, je le valorise, même s'il y a 1% d'espoir, eh bien, il ne faut surtout pas éteindre ce 1%. Il faut le faire grandir. Hein, et je le dis et redis encore, il n'y a pas de cas irrémédiable. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et j'en suis un peu la preuve vivante, parce qu'on ne donnait pas cher de ma peau, il y a 34 ans en arrière. Ben, aujourd'hui, je vis et ben, je suis heureux et très heureux aussi de pouvoir aider et puis d'être convaincant envers les gens qui sont aujourd'hui, qui souffrent de ces addictions-là, leur dire qu'il y a d'autres solutions, qu'il y a une autre solution, hein, et que l'on peut très bien vivre sans et s'épanouir sans ces produits-là. C'est pas vital, tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup, Bernard Duez.
Merci.
Merci d'être venu nous parler d'alcool assistance. C'est tout pour votre émission BPM Magazine. Passez une excellente journée à nous écouter sur BPM.
BPM Vernon, 99.3.